Bienvenue sur JMFM, la radio faite pour les lycéens et par des lycéens.
On parle musique, cinéma, etc.
JMFM, la radio qui vous emmène vers de nouveaux horizons.
JMFM, retrouvez-nous tous les jeudis dans la salle B4 de 17h à 18h au lycée Jean-Moulin de Pézenas.
JMFM, la radio des lycéens.
Bonsoir à tous, auditeurs de JMFM, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aloïs, et aujourd'hui je vais vous présenter un compositeur qui s'est démarqué ces derniers temps dans le contexte cinématographique et dans le contexte de différentes séries sur Netflix, Ludwig Göransson. Ce nom vous dit peut-être rien, mais ses musiques vous parlent sûrement si vous regardez plusieurs films et plusieurs séries. Ludwig Göransson, né en 1984, en Suède, est aujourd'hui une figure incontournable d'Hollywood. Il est le créateur de bandes originales iconiques qui, en quelques notes, nous plongent dans un univers unique. Ce n'est pas par hasard que ce compositeur a reçu des distinctions prestigieuses, dont un Oscar, un Grammy et un Emmy. On lui doit notamment la musique de Black Panther, Wakanda, le film qui a explosé tous les records. C'est des gars. Avec cette bande originale, Göransson a fait bien plus que composer une simple musique de fond. Il a créé un paysage sonore complet, inspiré de rythmes et d'instruments africains. Pour cela, il n'a pas hésité à voyager, à rencontrer des musiciens africains et à enregistrer des instruments traditionnels comme le tam-tam et le balafon pour donner vie au royaume de Wakanda. Ce mélange de sonorités africaines et d'orchestration moderne lui a valu un Oscar pour la meilleure musique du film de 2019. Une récompense amplement méritée tant sa composition a su renforcer l'âme du film. Mais Göransson ne s'arrête pas là. Il est aussi le magicien derrière les musiques du célèbre film sorti en 2023, qui a obtenu quasiment tous les Oscars et toutes les récompenses possibles et imaginables, Oppenheimer, avec sa musique « Can you hear the music ?» Cette musique apparaît dans une certaine scène qui m'a beaucoup marqué moi personnellement pour avoir vu le film. Elle apparaît dans plusieurs scènes. Premièrement, elle apparaît, donc je vous explique un petit peu le film. Le film raconte la conception de la bombe atomique durant le contexte de l'après-guerre et pendant la guerre mondiale. Donc, cette musique apparaît lorsqu'il comprend tous les schémas de la bombe atomique et on comprend que ça va aller beaucoup plus vite pour la créer. Et elle apparaît également lors de la première explosion de la bombe atomique. Avant de briller à Hollywood, Ludwig Göransson a fait ses débuts en collaborant avec Childish Gambino, le pseudonyme musical de l'acteur Donald Glover. Ensemble, ils ont coécrit des titres comme le puissant This is America, qui a remporté plusieurs Grammy Awards. La collaboration entre Göransson et Childish Gambino est un autre exemple de sa capacité à s'adapter, à passer de la musique de film à des productions hip-hop et pop, tout en conservant sa propre touche.
Got you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now.
En quelques années seulement, Göransson a su imposer son style dans un monde où les légendes sont nombreuses. Sa musique est reconnaissable entre toutes. Elle mélange des sons du monde entier, de l'acoustique à l'électronique, pour nous emporter dans ces mondes immersifs. Alors que vous soyez fan de Marvel, de Star Wars, ou simplement d'Oppenheimer et de musique innovante, ouvrez grand vos oreilles, Ludwig Göransson est un compositeur à suivre de près, car ce maestro de la modernité n'a sûrement pas fini de nous surprendre. C'était Aloïs pour JMFM, merci de votre écoute, et ça me fait plaisir, restez connectés.
J'ai 7 ans, mon grand-père est agenouillé devant son vieux lecteur DVD, il y insère un CD. Je ne le savais pas encore, mais cet instant allait changer ma vie. Le film apparaît à l'écran, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet. Mon grand-père s'assoit à côté de moi et me souffle, tu verras, ce film est inclassable, c'est de la poésie. 10 ans plus tard, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain est mon film préféré. Je le regarde quand je me sens triste et je ne suis jamais déçue. Je me sens toujours mieux. Alors parfois, comme Amélie, je romantise ma vie. Je cherche des petits détails qui me donnent le sourire. Pour elle, plonger la main dans un sac de grains, briser la croûte de la crème brûlée avec la pointe de la petite cuillère. Pour moi, le bruit de 2 glaçons quand je mélange ma grenadine, ou encore m'asseoir sur un banc et imaginer la vie des passants. Surtout à la gare, quand j'attends mon train. J'imagine des amours impossibles, ou d'autres qui viennent de renaître. Les débuts de nouvelles aventures, de nouvelles vies qui commencent, et pour m'accompagner dans mes écouteurs, j'écoute l'autre valse d'Amélie, tirée de la bande originale d'Amélie Poulain, composée par Yann Tiersen. Je vois les gens qui se bousculent quand soudain une question me tire de mes pensées. Comment ce monsieur Yann Tiersen arrive-t-il, à travers sa musique, à me faire sentir autant d'émotions? C'est vrai, après tout, la simple écoute d'une musique arrive à faire travailler autant mon imagination. Ce n'est pas possible, il doit y avoir un secret. J'imagine que pour expliquer ce phénomène, il faut déjà connaître le personnage. Alors Yann Tiersen, c'est un auteur, compositeur et musicien français tout droit venu de Brest. Plus jeune, un concert le marque, de par ses lumières psychédéliques, mais surtout de par ses musiciens, des violonistes avec leurs violons et leurs archers. Il s'imagine alors que ses archers sont des épées. C'est décidé. Il veut être chevalier, enfin, faire du violon. Il intègre le conservatoire où il apprendra le piano et le violon. Mais voilà, autour de ses 13 ans, ça y est, il en a marre de jouer au chevalier. Il explose son violon sur une chaise et quitte le conservatoire. Maintenant, ce qui l'anime, c'est la guitare. Il fera partie de plusieurs groupes de rock, mais rien ne durera trop longtemps. Les membres du groupe grandissent et ont autre chose à faire. Mais pour Ian, la musique, c'est ce qu'il veut faire de sa vie. C'est son truc. Aujourd'hui, il habite sur l'île de Ouessant. C'est une île isolée géographiquement qui regorge de secrets. Saviez-vous qu'elle était aussi appelée l'île aux femmes ? Car durant plusieurs décennies, elle n'a été gérée que par des femmes. Les hommes n'avaient qu'une seule vocation, marin de commerce, et partaient donc plusieurs mois laissant les commandes aux femmes. C'est là qu'est inscrite la musique de Ian Chersen, pas à Montmartre. Il y puise son inspiration, par exemple son album intitulé Le Phare vient directement du phare de Ouessant. Il déclare « La lumière du phare, quand on la voit de la terre, ça éclaire plein de détails. Et moi la musique, ça me sert un peu à ça, éclairer les détails des petites choses. » À travers la mer d'Iroise, dans laquelle baigne l'île, pour moi il donne la définition de sa musique. La mer, ça ne sépare pas, au contraire ça rapproche vachement. T'as une espèce de liberté je trouve, sur une île. Tout te rappelle que le monde est autour et que tu peux voyager, qu'il n'y a pas de frontières. Sa musique, à l'image de l'île, n'a pas de frontières. Peut-être que l'on peut l'expliquer par le fait que Ian Tiersen est multi-instrumentaliste. Après tout, dans le bout de phrase jouer de la musique, on retrouve jouer et, en passant, le jeu. Il aime tout tester, expérimenter, chercher. On peut prendre par exemple son accordéon qu'on entend à multiples reprises dans Amélie Poulain. Il ne l'avait loué au départ qu'une semaine par curiosité. Finalement, il est resté avec lui plusieurs semaines avant qu'il n'en achète un. Il devient accordéoniste. Il prend du plaisir à faire de la musique sur son île, tellement qu'il rachète la salle de spectacle et en fait un studio analogique. Escale. Même ici, son choix est poétique. Dans une interview, il raconte que cette salle a une âme, qu'ici plusieurs couples se sont formés, voire se sont mariés, qu'il ne voulait pas créer un studio fermé, mais ouvert aux musiciens. Un lieu de création et de vie. D'ailleurs, je devrais expliquer pourquoi un studio analogique. Alors Ian, ce qu'il aime, c'est l'analogue. Si on cherche un peu, on peut trouver que le son analogique, c'est la transformation des vibrations sonores en signaux électriques variant exactement dans les mêmes temps et les mêmes proportions. En gros, il veut du concret, enregistrer ses instruments. Lui-même explique qu'il sent une différence avec l'analogue quand le numérique n'est que des 0 et des 1. À titre d'exemple, écoutez une musique sur une plateforme, puis allez voir un concert. Vous comprendrez.
Pas mal.
Maintenant qu'on a un peu mieux cerné le personnage, j'aimerais me pencher un peu plus sur la création de la bande originale d'Emily. Le réalisateur Jean-Pierre Jeunet avait déjà superposé des musiques à son film quand il a demandé à Ian Tiersen de composer pour lui. Il lui arrivait de composer plusieurs musiques en une journée, mais il ne l'écrit pas suivant une scène. Elle découle de son imagination. La plus connue est sûrement la valse d'Amélie en version piano, jouée et rejouée sur Internet. Le début de la progression harmonique est Ré mineur, La mineur, Fa majeur, Do majeur. Et alors il modifie un accord sur deux. Il ajoute un si sur le la et sur le do, ce qui peut être perçu par l'oreille comme une forme de tendresse. C'est ce qui fait la différence sur cette suite d'accords communes qu'on retrouve notamment dans la musique Let It Be des Beatles. Après tout, comme l'a dit Kant, la musique est le langage des émotions. Mais il joue aussi avec le rythme, notamment avec un procédé de polyrythmie. C'est penser la mesure différemment entre la main gauche et la main droite. À la main droite, on entend un rythme ternaire. À la main gauche, on entend un rythme binaire. C'est le 3 pour 2, aussi appelé triolet des noirs. Chaque note est jouée à équidistance, ce qui vient décaler le rythme de gauche à droite. Il retrouve son cours tous les deux temps. Il se chevauche, ce qui crée un ralentissement qui offre une dimension plus poétique et mélancolique dans la musique avant de se redécaler au temps suivant. Ce déséquilibre est un cas typique des compositions de Ian Tiersen. Mais personnellement, je trouve que ça nous embrouille plus que ça ne répond à la question. Mais on sait désormais que ce n'est pas un miracle. Vous croyez au miracle ? Pas aujourd'hui, non. Je pense que la réponse est plus simple. car il n'y en a pas. La musique est propre à chacun. On n'interprétera pas les émotions d'une musique pareille suivant notre culture. Jan Tiersen ne cherche pas à traduire un instant, il s'inspire de son environnement, il met de lui dans chacune de ses compositions. Après tout, n'est-ce pas ça la patte d'un artiste et plutôt de Jan Tiersen, qui apporte par son histoire cette douceur. Et en fait une œuvre intergénérationnelle, une poésie inclassable à l'image de ce film. Quant à moi, mon train arrive, je dois partir. J'ai un nain de jardin à poser à Pézenas au lycée Jean Moulin. C'était Lia dans cette chronique pour JMFM.
Alors, racontez-moi, ce garçon qu'elle a croisé l'autre jour, elle l'a revu ?
Non. En fait, il s'intéresse pas aux mêmes choses.
Vous savez, la chance, c'est comme le Tour de France. On l'attend longtemps, puis ça passe vite. Alors quand le moment vient, il faut sauter la barrière, sans hésiter.
Je la connais même pas.
Mais si, tu la connais.
Depuis quand ?
Depuis toujours. Dans tes rêves.
Une mauresque et deux mantalos.
Tu m'éclaires, ce type de recoulement, c'est prénuptial ou post-coïtal ?
Et ta connerie, elle est congénitale ?
Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la bande originale d'un film que j'aime beaucoup par sa qualité de mise en scène, de photographie et de musique qui s'appelle Suspiria, qui est un film italien des années 1970. C'est un film d'horreur réalisé par Dario Argento donc en 1977 où l'on suit l'histoire d'une jeune femme américaine qui arrive en Allemagne, à Berlin, pour aller dans une école de danse. Sauf que, en entrant dans l'école, elle tombe sur une personne qui est en train de fuir cette école et qui prononce plusieurs mots qui sont inaudibles pour la personne. Donc, ça a une importance plus tard dans l'histoire. Et à ce moment-là même, il y a eu un meurtre dans l'école. Donc, c'est un film qui parle de fantastique.
Susie Ben decise di perfezionare i suoi studi di balletto nella più famosa scuola europea di danza. Scelse la celebre Accademia di Friburgo. Partì un giorno, alle 9 di mattina, dall'aeroporto di New York e giunse in Germania alle 10:45, ora locale.
La musique originale a été composée par le groupe italien Goblin, qui est un groupe de rock progressif qui a commencé dans les années 70 et fait encore des tournées aujourd'hui. Composé de Claudio Simonetti au clavier, Massimo Morante à la guitare, Fabio Pignatelli à la basse et Agostino Marangolo à la batterie. C'est un groupe qui a un son, une sonorité plutôt influencée par King Crimson et un peu Genesis. Il compose la musique du film Les frissons de l'angoisse, qui est aussi réalisé par Dario Argento.
L'assassino è uno schizofrenico paranoico. L'individuo che uccide con quella furia lo fa certamente solamente quando è in preda a un raptus.
Avant d'être rappelé pour la bande originale de Suspiria, donc le film dont nous parlons aujourd'hui. Autres œuvres marquantes ont été marquées dans la carrière de Goblin, comme la bande originale de Zombie de George Romero et de Phenomena de Dario Argento encore.
<t'->
Le groupe compose la majeure partie du film, de la musique du film, en collaboration avec Dario Argento, qui compose aussi la musique du film. Le thème principal du film a été composé avec un bouzouki. C'est un instrument d'origine grecque dérivé du luth. C'est un instrument à cordes pincées et utilisé notamment par Frank Zappa, produisant une musique plutôt aiguë et métallique. L'instrument est un modèle particulier avec de la mandoline choisie par le réalisateur pour son son particulièrement profond. Claudio Simonetti chante de manière mystique, organique, alternant la mélodie avec des halètements, des chuchotements qui n'ont aucune signification, qui ne veulent rien dire, selon les dires même de l'auteur. On entend aussi des percussions africaines qui accentuent la tension du film. Pour toutes ces raisons, c'est une composition qui est très expérimentale, donc le bouzouki, les percussions et les halètements. Le morceau commence par une mélodie douce et répétitive, mais dont le volume sonore augmente petit à petit, ce qui fait qu'au début c'est un peu comme une berceuse. Mais l'arrivée du bouzouki donne l'impression de griffes émaillant de cette douce musique du début. La voix de Claudio Simonetti paraît parvenir des enfers ou de la gorge d'un gobelin ou d'une sorcière peut-être. Les percussions précisent un sentiment de fatalité, de jugement dernier, car elles frappent de manière frénétique et de plus en plus rapprochée. Petit à petit, la musique s'accélère et le volume augmente. On a l'impression que nous sommes pris dans un piège, que l'étau se resserre sur nous. Tous ces éléments réunis nous donnent l'impression que nous nous enfonçons dans un cauchemar. La sonorité rappelle un peu l'album 666 d'Aphrodite's Child, qui utilise aussi des synthétiseurs et des instruments grecs pour nous dépeindre l'apocalypse sur Saint-Jean. C'est un album concept de rock progressif d'environ la même période dont le groupe est originaire de Grèce.
When the Lamb opened the next two seals, we saw the souls, we saw the martyrs, we heard them crying, we heard them shouting. They were dressed in white, they'd been told to wait. The sun was black, the moon was red, the stars were falling, the earth was trembling. And then a crowd impossible to number, carrying flowers, shouted amid the hotless sun, the lightless moon, the windless earth, the colorless sky. How much longer will we suffer from hunger? How much longer will we suffer from thirst? And when the Lamb opened the seventh seal, silence covered the sky.
Bon, je vous conseille de regarder ce film parce qu'il est très bien et d'écouter la bande originale aussi de Suspiria, qui est très intéressante, car il y a des morceaux qui ne sont pas dans le film. Regardez des giallo italiens, c'est très intéressant. Les films de Dario Argento. Voilà, merci de m'avoir écouté. C'était Quentin pour JMFM. À la prochaine. We'll be right back.
don't know, it just still feels like something's missing from our holiday special.
Yeah, but I don't know what it is.
Ho, 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 ho!
Santa!
Bonjour, c'est Théo, et je vais vous poser une petite question. Pourquoi, quand on entend ce son...
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I...
On se dit que c'est une musique de Noël.
I don't care about the presents underneath the Christmas tree.
Depuis notre enfance, nous sommes exposés aux musiques de Noël à peu près partout pendant la période estivale. Magasins, rues, radios, et même les films. Ou alors parce que nos parents décident de mettre de la musique dans la maison. Même sur certains films, par exemple, je pourrais citer les Gremlins, ou alors Maman, j'ai raté l'avion, on pourrait entendre ces genres de musique. Mais pourquoi on réussit à reconnaître que c'est des musiques de Noël ? Avec autant d'exposition durant la période estivale, c'est naturel qu'on puisse reconnaître le rythme, les instruments utilisés, le ton de la musique, et donc forcément, on peut faire lien avec un genre, le genre de Noël. C'est pas forcément le cas pour toutes les musiques, mais je peux vous mettre trois extraits de musique, dont une de Noël, vous saurez entendre la différence.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.
Certaines musiques sont d'ailleurs devenues mondialement connues, avec All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey, ou alors Let It Snow de Dean Martin. Bien sûr, il y en a bien plus, mais si je me mets à toutes les citer, ça serait bien trop long. Ce genre de musique persistera dans le temps car Noël est une fête conviviale. Personnellement, j'ai décidé de parler des musiques de Noël pour plusieurs raisons. Premièrement, nous approchons très rapidement des périodes estivales. Et deuxièmement, parce que c'est le genre de musique que dès qu'on les entend, on a envie de les écouter, mais en même temps, on n'a pas envie. Ben, ce qui me marque, c'est qu'elles sont chiantes en temps normal. C'est qu'on les entend, on se dit « Oh non !» Mais le truc, c'est qu'on a envie de les entendre en même temps. On appelle ça la psychologie. C'est donc sur la musique « All I Want For Christmas Is You » de Mariah Carey que je vous laisse.
Santa's all better now.
All right!
I just thought I would come by and see if I could spread some holiday cheer.
Hey, there's a Santa in there.
Oh, the kids are back. Get out of here!
Pour être au courant de toutes les dernières actualités de la web radio du lycée Jean Moulin de Pézenas,
retrouvez-nous sur notre page Instagram gmfm_pez.
GMFM, la radio des lycéens.